Un regard neuf sur l'actualité. Une vision nouvelle des enjeux de société. Cube Radio.
Cube Radio. Cube Radio.
Vous écoutez Philippe Vincent Foisy.
Parlons de la décision du gouvernement fédéral d'interdire le réseau 5G du Canada aux compagnies comme Huawei et ZTE, deux compagnies de télécommunications chinoises. Le gouvernement canadien dit que c'est pour des raisons de sécurité qu'on décide de les interdire du développement de ce réseau. Qu'est-ce que la Chine pourrait faire en représailles? Comment c'est perçu du côté chinois? Guy Saint-Jacques est un ancien ambassadeur du Canada en Chine. Monsieur Saint-Jacques, bonjour.
Bonjour, Monsieur Foisy.
Ce matin, là, est-ce que Pékin se réveille en disant « Oh boy, on recommence, on retrouve de nouvelles sanctions contre le Canada » ou on se dit « On a tellement d'affaires à gérer que Huawei qui ne sera pas au Canada, c'est pas la fin du monde »
Bien, je pense qu'ils savaient que la décision était pour être prise et probablement qu'ils étaient étonnés aussi que ça prenne tellement de temps.
Eux aussi étaient étonnés que ce soit long. Là.
Oui, mais je pense qu'ils vont vouloir donner un exemple du Canada, même s'ils en ont plein les bras avec tout ce qui se passe ailleurs, parce que la politique de la Chine, c'est d'essayer de réduire les dommages. Puis là, s'ils nous pénalisent, ça va leur permettre de dire à d'autres pays qui seraient tentés de faire la même chose que nous, de dire, voyez, si vous prenez des mesures comme ça, ça va vous faire mal. Puis en plus, il faut comprendre que c'est une année importante pour le président Xi Jinping parce qu'il veut obtenir un troisième mandat comme secrétaire général du Parti communiste chinois. Or, l'économie va mal à cause de leurs mesures qu'ils ont mis en place avec la COVID-0. Leur appui envers la Russie a amené aussi beaucoup de critiques. C'est que donc, s'il ne fait rien, ça va être un aveu de faiblesse. Puis pour cette raison-là, moi, je pense que c'est la principale raison. Ils vont vouloir choisir un produit, en interdire l'accès, surtout s'ils peuvent l'obtenir ailleurs. Ils ont le choix de ce côté-là. On exporte beaucoup de produits, beaucoup de minéraux. C'est donc, moi, je m'attends à ce qu'ils prennent des mesures de représailles.
Puis, on parle de quoi comme produit? Est-ce que ça peut être un produit agricole? On vient de régler le canot-là. Est-ce qu'on pourrait retourner là-dedans? De produits comme le porc ou ce serait plus dans la technologie? Là? Parce que, est-ce que les Chinois sont plus en mode, vous faites quelque chose, on fait à peu près la même chose? On se souvient que les deux Michael puis Meng Wanzhou. Oui. Est-ce qu'on pourrait même voir d'autres prises d'otages? Là? Donc, à quoi pourraient ressembler ces représailles-là?
Oui. Ben, je pense pas qu'ils vont prendre des otages parce que, dans mon expérience, ils prennent des otages dans des cas d'espionnage. Ça avait été le cas quand ils avaient arrêté Kevin et Julia Garrett au mois d'août 2014. On avait arrêté un dénommé Soubin qui a éventuellement été condamné pour espionnage aux États-Unis. Ensuite, on arrête Mme Meng. Ils ont arrêté les deux Michael. Dans ce cas-ci, je serais pas inquiet là, si j'étais un homme d'affaires québécois en Chine. Mais ceci étant dit, aussi, il doit faire attention du côté des produits agroalimentaires parce que il allait chercher une bonne partie de leur maïs et de leur blé en Ukraine et en Russie. Or, là, avec la guerre, ça va être beaucoup plus difficile. C'est que donc, ils peuvent pas nous pénaliser. On n'achète plus d'orge canadien, on n'achète plus de maïs canadien, on n'achète plus de
blé canadien. Ouais.
Le canola, ils ont levé les dernières interdictions il y a deux jours. Là, moi, je pense qu'ils ont besoin de notre canola. Ça fait que, puis surtout l'an passé, ils ont eu de mauvaises récoltes parce qu'il y a eu de la sécheresse puis des inondations. Mais à part ça, et puis le porc, le Québec exportait beaucoup de porc jusqu'à, je dirais, le milieu de l'an passé. Puis entre-temps, ben, les Chinois ont reconstitué leur cheptel de porc. Puis là, maintenant, ils ont un surplus. Ça fait que de ce côté-là, ils peuvent pas pénaliser le porc parce qu'on n'en exporte pas. Quoique, ils pourraient le faire, puis ça serait symbolique, puis ils se diraient, bon...
Au moins, on a fait quelque chose, oui, c'est ça.
Oui, puis même s'ils savent qu'ils n'en ont pas besoin. Puis parce qu'à part ça, aussi, du côté des minéraux, on a bénéficié de la guerre commerciale entre la Chine et l'Australie parce que l'an passé, au cours, en fait, des deux dernières années, on a exporté beaucoup plus de minerais de fer, de charbon, parce qu'ils voulaient pénaliser l'Australie, donc ils achetaient ça ici. Mais là, c'est ça, ils peuvent pas vraiment diminuer leur importation du Canada parce que ils n'ont pas beaucoup d'autres sources. Mais il reste quand même qu'il y a d'autres produits agroalimentaires. On exporte du bœuf. Puis je pense, c'est ça, qu'ils vont vouloir trouver quelque chose puis envoyer le message, parce qu'on avait été prévenu aussi autant par l'ambassadeur chinois actuel que par son prédécesseur Liu Shaoyan, que si on interdisait Huawei, on aurait des conséquences.
Expliquez-nous l'importance de Huawei pour la Chine. Est-ce que c'est comme un Bel Canada? Est-ce que c'est plus gros que ça encore? Est-ce que c'est une compagnie qui est vraiment à coquiner avec l'État chinois? Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter pour la sécurité? Faites-nous le portrait là, pour ceux qui se disent ce matin, qu'est-ce que c'est ça Huawei? Là, j'en entendais un peu parler, j'ai peut-être acheté un téléphone Huawei à un moment donné parce qu'il était moins cher, mais pour la Chine, c'est quoi?
Ben, c'est une compagnie, c'est un fleuron, parce que c'est une compagnie qui s'est développée très rapidement. D'ailleurs, probablement en volant la technologie de Nortel, parce que la fin de Nortel a correspondu à la montée de Huawei. Et le dirigeant de la compagnie, c'est un ancien militaire qui est près de Xi Jinping. C'est pour ça, d'ailleurs, que Xi Jinping s'est tellement intéressé à Mme Meng Wanzhou, parce que c'était une affaire personnelle pour lui. Et puis, cette compagnie-là, le gouvernement chinois veut répliquer ce succès-là dans beaucoup de domaines. C'est que là qu'on s'attaque à leur fleuron, ça leur fait très mal. Puis d'ailleurs, l'an passé, les revenus de Huawei ont baissé pour la première fois. Mais ce qui est arrivé, c'est ça. On avait puis moi, je dirais que les consommateurs canadiens et québécois ont profité de ça parce que Huawei fait de bons produits. Puis quand moi j'étais ambassadeur, vers 2013, on avait signé un accord pour que les produits de Huawei soient testés avant d'être déployés au Canada pour s'assurer qu'il n'y avait pas justement de problème du côté de la sécurité. Le problème, c'est qu'avec la 5G, c'est beaucoup plus compliqué qu'avec la 3G. Puis en plus, ce qui a changé en Chine entre-temps, c'est qu'ils ont adopté une loi pour forcer toutes les compagnies chinoises, tous les Chinois à fournir de l'information au gouvernement si on leur demande. Ce qui veut dire que Huawei ne pourrait pas résister. Puis on sait que la propension du régime chinois à collecter de l'information, à espionner.
Faire de l'espionnage industriel aussi.
Et c'est ça, ils sont passés maîtres dans l'art de l'espionnage. C'est, moi, je pense sur le plan de la sécurité. Puis en pensant aussi que nos intérêts, ben c'est complètement aligné avec ceux des États-Unis puis des autres membres là, du groupe des Five Eyes. On n'avait pas le choix. La seule question, c'est pourquoi ça a pris tant de temps.
Ouais, c'est ça. Donc les craintes de sécurité sont justifiées selon vous.
Oui.
Là.
Tout à fait, tout à fait.
Bon, mais on va continuer de regarder ce qui se passe du côté de la Chine. Est-ce que c'est une pierre de plus dans le fait que c'est compliqué d'avoir des relations avec la Chine, dans cette relation économique qu'on essaie de s'enlever un petit peu, mais qu'on est hyper dépendant de la Chine? Est-ce que ça va pouvoir peut-être même nous forcer à être encore moins dépendant de la Chine?
Ben, je pense que, moi, ça fait longtemps que je le dis, on est dû pour une réévaluation complète de notre stratégie d'engagement avec la Chine. C'est notre deuxième partenaire commercial, puis ils vont toujours avoir besoin de nos produits. La seule chose, c'est que il faut reconnaître que c'est un État autoritaire, agressif, qui fait de l'interférence au Canada, qui vole de la technologie. C'est que donc, il faut être beaucoup plus ciblé dans notre approche, travailler de concert avec nos partenaires pour contrer le côté voyou de la Chine, puis leur dire, écoutez, si vous voulez jouer sur la scène internationale, il faut respecter les règles et arrêter votre comportement comme de prendre des otages. Et là-dessus, j'ai bien hâte de voir la fameuse stratégie Indo-Pacifique, parce que ça fait des années qu'on nous promet ça. Mme Joly dit que c'est en préparation, mais ça commence à ressembler à En attendant Godot, là.
Je me suis tellement rendu souvent en Asie, puis on me dit, ah oui, c'est important de redéfinir ces relations-là, puis de travailler avec les pays asiatiques, sud-asiatiques, puis ça, moi, chaque fois qu'on y va, puis on revient, puis on oublie qu'on y a été, là.
Oui, c'est ça, puis c'est pour ça, il y a beaucoup de marchés prometteurs ailleurs en Asie qu'en Chine, puis il faut les développer. Puis moi, je pense que c'est ça. Si on est de concert avec d'autres pays pour forcer la Chine à respecter ses engagements, parce que quand elle s'est jointe à l'Organisation mondiale du commerce en 2001, elle n'a pas respecté tous ses engagements d'ouvrir son marché. Puis là-dessus, la Chine va comprendre si on se met ensemble, on dit, écoutez, la récréation est finie, il faut que vous livrer la marchandise puis ouvrir vos marchés, ben là, peut-être qu'ils vont avoir un comportement un peu plus acceptable.
Guy Saint-Jacques, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci. Salut. Bonne journée.